Bonjour mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons refaire à nouveau une nouvelle page de l'histoire au quotidien. Gaza. Vous ne vous attendez pas, chers auditeurs, à ce que je vous parle aujourd'hui, 14 janvier 2009, d'autre chose que de Gaza. Essayons de le faire d'une façon un peu plus intelligente que la majorité des commentateurs. On ne peut rien comprendre au problème palestinien si l'on ne rappelle pas que le sionisme a toujours considéré que le problème de la population arabe était l'obstacle majeur à la réalisation de son rêve. Dès 1895, Theodor Herzl avait écrit dans son journal « Nous devons faire en sorte d'expulser discrètement la population pauvre, c'est-à-dire arabe, bien sûr, de l'autre côté de la frontière, en lui procurant du travail dans les pays voisins, mais en lui refusant tout emploi dans notre propre pays. » En 1937, lorsqu'on parla sérieusement du partage de la Palestine, Ben-Gourion écrivait à son fils « Les Arabes devront s'en aller ». En 1947-48, lorsque le partage se réalisa, la stratégie de Ben-Gourion fut simple. Conquérir un maximum de territoire, sans tenir compte de la résolution 181, et en même temps les désarabiser. Pour cela, Ben-Gourion et ses amis élaborèrent un véritable plan. Le plan d'Alep, qui consistait à tuer un maximum d'hommes et à chasser des villes et des villages, des femmes et des enfants. Tous étaient désarmés. Les résultats de cette brillante et courageuse opération fut que les survivants se réfugièrent au Liban, en Cisjordanie, en Jordanie et à Gaza, où ils vivent depuis dans des camps de concentration. À Gaza, c'est tout le territoire qui est un camp de concentration, puisque depuis que l'Égypte a rendu cette terre à Israël en 1979, les Palestiniens ont vu se réduire comme peau de chagrin leur liberté d'aller et venir, d'où un puissant sentiment de révolte. Pour compliquer les choses, à côté du Fatah, dont les cadres sont souvent corrompus, est apparu le Hamas, qui est une branche des frères musulmans. Ce nouveau mouvement, on l'oublie toujours, a été encouragé et chouchouté par Israël durant de nombreuses années afin de diviser et d'affaiblir la résistance palestinienne. On voit maintenant avec quel succès. En 2006, sous la pression internationale, c'est-à-dire en fait américaine, eurent lieu des élections libres, fait rarissime. Celles-ci donnèrent la victoire au Hamas. Immédiatement, nos démocrates patentés décidèrent non seulement de ne pas en tenir compte, mais ils se refusèrent à toute discussion avec ce mouvement, au moins officiellement. Car lorsque les Français, les Anglais ou les Américains se rendent à Damas, ils vont tous présenter leurs hommages à Khaled Meshal, le chef du Hamas en exil. Depuis le retrait unilatéral des Israéliens de Gaza en 2005, la résistance palestinienne, toutes tendances confondues, envoyait des kassams sur les territoires du Negev annexés depuis 1947 par Israël. Ces fusées artisanales font plus de bruit que de mal. La preuve en est, c'est qu'en 2008, pas un seul Israélien n'est mort à cause des kassams, alors que pendant le même temps, c'est-à-dire depuis Annapolis, 498 Palestiniens, dont 80 enfants, ont été tués par les Israéliens, et que les constructions dans les colonies ont augmenté de 1678%, ce qui rend complètement absurde les conversations israélo-palestiniennes, ainsi que les accusations d'Israël. En juin 2008, a été conclue une trêve entre Israël et le Hamas. Trêve rompue par Israël le 4 novembre, jour où 6 membres du Hamas furent tués sans raison. Ajoutons que le Hamas avait conclu cette trêve dans l'espoir de voir se desserrer le blocus de Gaza. Or, ce fut le contraire qui se produisit. Dans ces conditions, la trêve devenait sans objet. D'ailleurs, Ehud Barak, ministre de la Défense israélien, a avoué que depuis 6 mois, il préparait l'offensive qui se déroule actuellement. Aujourd'hui, les questions qui se posent à Israël sont simples. Ce pays va-t-il atteindre ses buts de guerre? à savoir désarmer totalement le Hamas et éradiquer son pouvoir politique. C'est douteux. Aux prochaines élections, c'est toute la Palestine qui va voter pour le Hamas. Du moins, est-ce à prévoir. Certes, le Hamas va sortir diminué et affaibli de cette guerre, mais pour combien de temps? Alors se pose une deuxième question. Et après? Israël se refuse de discuter avec le Hamas sous prétexte que c'est un groupe terroriste. Mais ne sont-ce pas des groupes terroristes, l'Irgun, la Haganah, le Stern, qui ont fondé Israël? Qu'on le veuille ou non, le Hamas est un acteur majeur de la vie politique palestinienne. Il va donc bien falloir discuter avec lui. Les Israéliens préfèrent discuter avec Mahmoud Abbas, cela se comprend. Mais le malheureux président de la soi-disant autorité palestinienne, dont ils ont ruiné le crédit en ne lui accordant pratiquement rien, est complètement discrédité. Si les Israéliens veulent faire la paix, mais le veulent-ils vraiment? C'est là toute la question. Il va bien falloir qu'ils discutent avec leurs adversaires. C'est là le béaba de la diplomatie. Sinon, le Proche-Orient va connaître une guerre sans fin, car les Palestiniens ne déposeront pas les armes tant que leur dignité d'homme sera niée par les Israéliens. J'invite mes auditeurs à vérifier avant d'acheter les produits venant ou pouvant venir du Proche-Orient si le code-barre porte les chiffres 729. Signe que ces produits proviennent d'Israël. Je les invite, évidemment, à ne pas se faire, involontairement bien sûr, les complices des bourreaux du peuple palestinien. Au revoir mes chers auditeurs, au mois prochain.